Alors effectivement, j'ai communiqué un texte à Léo qui s'appelle Introduction au capitalisme cognitif, qui est disponible sur le site. Alors peut-être que les uns et les autres vous l'avez lu, tant mieux, parce que mon exposé ne va pas reprendre exactement selon creuser une idée qui n'est pas vraiment dans ce texte. On pourra discuter à partir du texte, on pourra évoquer les thèmes qui sont développés dans ce. Et pour l'instant, donc, je vais aborder un peu ce qui va retenir notre attention et introduire donc la question de l'innovation. Et en fait, disons que je vais traiter de ce que j'appelle les deux faces du capitalisme cognitif. Et je vais sur ce que cela peut signifier. Je viens collectivement engagé dans une réflexion sur les mutations du capitalisme. Cette réflexion a démarré en octobre, si je me souviens bien, Carlo, en octobre 2004. Une réflexion qui ne se développe pas dans n'importe quelle direction, elle se développe dans une direction marxienne, ou plutôt post-marxienne, puisque, selon Marx, notre mode de compréhension du monde doit évoluer avec celui-ci. Et comme l'ont écrit Hart et Tony Negri, il faut aller au-delà de Marx pour marcher au moins ici depuis octobre 2004. Alors, dans cette perspective de réflexion donc post-marxienne sur certaines mutations du capitalisme contemporain, Tony Negri et le courant opéraïste italien ont ouvert la voie, et la réflexion donc qu'ils ont engagée est une réflexion de caractère philosophique, je dirais, pour la qualifier disciplinairement, et qui prend appui beaucoup sur les Grundrisse. Et ce travail dont on voit en langue française un certain nombre de traces et de documents qui ont été publiés depuis la fin des années 70. Donc cette démarche, cette approche, je trouve son point d'expression le plus ambitieux et le plus complet dans l'ouvrage donc Empire, qui a été publié en 2000 aux États-Unis, puis ensuite dans le monde et en France. Alors on trouve dans cet ouvrage, et auparavant dans d'autres travaux de Tony Negri en particulier, donc l'affirmation du rôle actif du prolétariat, l'analyse de l'émergence de la subsomption réelle, l'émergence de subjectivités nouvelles, une nouvelle composition du pouvoir fondée sur l'immatériel, la coopération, la coordination, l'affectif. Et donc tous ces thèmes ont été développés dans Empire et dans les articles ouvrages qui ont suivi, je pense, à multitude, donc plus récents qu'Empire. Je suis économiste, je tiens à le préciser pour ceux qui ne me connaissent pas, je représente cette discipline triste, dont on parle souvent comme discipline triste. Donc j'essaierai de ne pas être trop triste malgré tout. Et les économistes donc ont été plus tardifs il y a toujours eu de tout temps, bien entendu, des économistes qui sont intéressés aux mutations du capitalisme, bien heureusement, mais dans la perspective, je dirais, que j'ai évoquée, post-marxienne, dont Tony a un peu dégagé les traces initiales, dans ces perspectives, si vous voulez, un peu critiques, les économistes ont été tardifs à caractériser les mutations contemporaines et à aller au-delà, disons, d'un certain nombre de discours qui ont fleuri dans les années 70-80, fordisme, post-fordisme, etc. Alors, le courant qui s'est distingué donc à une époque, c'est le courant régulationniste, donc vous le connaissez sans doute les uns et les autres. Donc ce courant s'est distingué au départ par la mise en évidence de ce qui a été appelé donc le fordisme, et il y a eu un succès scientifique, un succès académique, et même au-delà, disons, du corpus qui s'est érigé autour de cette notion de fordisme. Et puis après, le kiné dans l'analyse des transformations du capitalisme. On a beaucoup parlé de post-fordisme, modèles, plusieurs propositions, plusieurs interprétations de ce qui était en train de se passer dans les années 80. Et puis finalement, les régulationnistes se sont distingués en quelque sorte à la fin des années 90, c'est-à-dire au sommet de la période de la nouvelle économie. Ils se sont distingués donc en proposant une notion donc pour caractériser le capitalisme contemporain, qui est la notion du capitalisme patrimonial. donc mettant en exergue, en quelque sorte, mettant en avant, privilégiant en quelque sorte, d'une part un aspect financier du fonctionnement du capitalisme, et d'autre part, l'existence de l'effet de richesse, donc d'avoir un processus d'accumulation financière et une évolution du capitalisme sur cette base. Sans doute regrettable, enfin de mon point de vue regrettable, et particulier donc pour le courant régulationniste donc à ce moment-là, c'est qu'ils n'ont pas fait d'analyse des transformations des processus productifs. Et donc des transformations des forces productives en particulier, ils ont privilégié cette dimension, cette composante financière qui conduit à ce concept de capitalisme patrimonial, dont ils ont ensuite, enfin ou quasiment simultanément, disons, démontré le caractère non soutenable, et donc cette hypothèse. Alors après les régulationnistes, ou en même temps... Disons, un autre groupe d'économistes, donc auquel j'appartiens et auquel appartient un certain nombre de personnes, travaillaient sur cette question des mutations du capitalisme, et certains de ces économistes, d'ailleurs, ont participé avec Tony Negri à l'animation de Futur Antérieur. Et c'est-à-dire que cette réflexion s'est alimentée en partie du travail de Tony Negri en 2000 à proposer l'hypothèse du capitalisme cognitif, qui est une hypothèse donc d'interprétation de la structure, de la dynamique dominante du capitalisme contemporain, reposant sur deux principes. Premièrement, la connaissance est la source de la valeur, le principe actif de la valeur dans le capitalisme contemporain. Et deuxièmement, l'accumulation est une accumulation qui porte essentiellement sur la connaissance. Et donc on a une conception qui se fonde sur l'accumulation de la compétence. Alors cette hypothèse du capitalisme cognitif s'inscrit pour partie sur la même base, pour faire court, disons, une approche institutionnelle des mécanismes de régulation économique, mais elle s'appuie aussi, comme je l'ai dit, sur une inspiration opéraïste ou négriste.
C'est pas grave, mais... Ah oui, tombé, c'est pas grave. Non, vas-y, ne t'inquiète pas.
Non, c'est moi.
Alors, le papier qui a été mis sur le site, merci. Le papier qui a été mis, c'est un papier qui expose l'ensemble, si vous voulez, des justifications, des explications. Ce qu'il faut entendre par le capitalisme cognitif émerge donc dans le courant des années 90. Et quels sont un certain nombre de problèmes soulevés par le capitalisme cognitif. On pourra y revenir éventuellement. Alors, cette analyse du capitalisme cognitif, en fait, est à certains égards inachevée. Elle est inachevée, et c'est ce qui explique, entre autres, selon moi, notre engagement dans ce séminaire, donc, qui nous rassemble depuis octobre. Notre démarche a consisté à jeter les bases d'une analyse original du capitalisme et à exploiter cette approche dans une perspective critique. Nous n'avons pas été jusqu'à former une théorie ou une représentation de la production à analyser l'émergence actuelle et à venir de nouveaux champs productifs à partir de cette hypothèse du capitalisme cognitif. Dit d'une autre façon, donc, nous manquons et nous n'avons pas donc produit une analyse de la capacité productrice du travail cognitif. Alors je m'explique très simplement, disons par un rapprochement, l'analyse marxiste traditionnelle fournit une analyse et quantifiée du travail, de la valeur de la force de travail, de la plus-value, de l'exploitation, et tout cela débouche sur une analyse des régimes d'accumulation dont l'a faite Aglietta dans son bouquin, dans son premier, donc « Régulation et crise du capitalisme ». Et nous avons donc une voie quantifiée, opérationnelle, permettant d'identifier des types donc de régimes d'accumulation, des types de dynamiques et des types de tensions du système, donc sur la base d'un certain nombre d'hypothèses relativement simples. Et nous n'avons rien d'équivalent, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'analyse des relations entre les formes d'exploitation, le rôle, la nature des connaissances, la façon dont les connaissances sont appliquées, la reproduction du capital cognitif, en quelque sorte, du système, le développement des connaissances, sur les rythmes de croissance, les régimes d'accumulation. Nous n'avons pas, pour l'instant, de corpus d'analyse permettant de mettre en relation tous ces éléments de façon à avoir, en quelque sorte, entre guillemets, une espèce de modèle de croissance ou une famille de modèles de croissance possible ou de régimes de croissance possible du capitalisme cognitif. Et donc, nous devons engager une réflexion sur la relation entre croissance, la connaissance est exploitée par le système dans le cadre donc d'un certain système social pour développer la production, amorcer la croissance, accentuation, etc. Et donc, je voudrais engager ici, amorcer un tout petit peu une réflexion sur cette question-là, sur la relation entre croissance et production cognitive et des principes donc que l'on trouve dans cette théorie du capitalisme cognitif. Première observation, j'énonce les deux types d'observations que je vais faire et ensuite je les développerai. Premier type donc d'observation et de réflexion, l'approche actuelle du capitalisme cognitif repose en fait sur trois idées, trois thèmes, mettons trois idées, qui sont en elles-mêmes peu opérationnelles. En fait, elles nous stérilisent un peu, bon, si je voulais être un peu méchant, nous-mêmes, je dirais qu'elles nous stérilisent un peu, enfin, elles ne nous permettent pas, ces idées, d'avoir une vision positive de la relation entre connaissance et production. Donc, ces trois idées théories du capitalisme cognitif. Alors, je vais développer. Deuxième thème, ensuite, ça sera le thème central. Le lien entre travail cognitif et produit, c'est un lien et c'est une liaison, disons une relation très incertaine et c'est pour cela donc qu'il faut analyser, il faut partir de l'idée de l'existence de deux logiques, de deux faces du capitalisme cognitif entre lesquelles existe une dynamique, une dialectique même, mais je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus. Alors premier point, l'essence comme force productrice. Si on prend la thèse du capitalisme cognitif comme elle existe actuellement, peut être introduite de trois façons différentes, par trois angles différents. Il y a trois idées qui permettent, qui soulignent un aspect important de la connaissance dans le capitalisme cognitif. Et malheureusement, aucune de ces idées, disons, n'est suffisamment opérationnelle pour servir de base à une analyse du rôle productif de la connaissance. Alors, premier essentiel, du travail cognitif. Donc, c'est l'affirmation du fait que dans les sociétés contemporaines, dans le capitalisme contemporain, donc, la forme de travail ou la nature du travail a fondamentalement changé et que la nature essentielle du travail, c'est sa nature cognitive, c'est-à-dire un travail communicationnel, un travail qui prend une forme aussi langagière, coopérative, immatérielle, etc., etc. Alors, cette idée que nous avons reprise, enfin, qui est au départ dans les travaux opéraïstes italiens, donc c'est pas une idée qui nous est originale et personnelle, donc c'est une idée importante, tout à fait indiscutable et positive, néanmoins, elle est insuffisante pour permettre d'avancer, parce que le travail cognitif est posé comme catégorie universelle, le travail est hétérogène. Par ailleurs, le travail dans ce contexte-là, tel que c'est formulé, le travail est posé comme immédiatement contrainte sur l'exercice de cette capacité cognitive. Donc il est d'emblée cognitif, et il est d'emblée en quelque sorte pleinement cognitif. Et la démarche consistant à poser ainsi d'emblée la nature cognitive du travail ne se prolonge pas et ne peut pas se prolonger dans les termes les posés par une analyse positive de la production. Il faudrait pour cela, il faut pour aller plus loin, préciser les conditions dans lesquelles se réalise le travail cognitif. s'il est traité dans sa généralité, dans son universalité, disons, est en quelque sorte posé à l'état de virtualité. Autrement dit, il faut, pour aller plus loin, préciser dans quel procès de production ou d'utilisation des connaissances le travail cognitif s'inscrit.